Format A3 juridique ce matin. Comme chaque année, l'arsenal législatif subit des modifications. On en fait le tour ce matin.
Et pour savoir ce qui change en 2019, nous avons le plaisir de retrouver notre juriste maison, Sandrine Lachat.
Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Alors, quelles sont les principales nouveautés qui entrent en vigueur en cette année 2019 ?
Alors, il y a tout d'abord des nouvelles dispositions en matière de circulation routière qui sont entrées en vigueur en ce début d'année. Et elles concernent principalement les contrôles relevant de la médecine du trafic, la formation pratique à la conduite et les prescriptions qui sont relatives au transport de marchandises dangereuses. Donc en fait, il y a principalement le relèvement de l'âge pour l'examen relevant de la médecine du trafic qui est entré en vigueur au 1er janvier. Donc à compter de cette date, les automobilistes ne devront soumettre un examen médical bisannuel qu'à partir de 75 ans, alors que jusqu'à présent, cette obligation s'imposait dès l'âge de 70 ans. Donc il y a le relèvement de cet âge limite, entre guillemets. Et puis, au 1er février 2019, l'obligation de fournir un rapport ophtalmologique en cas de valeur d'acuité visuelle proche de la limite sera abrogée. C'est-à-dire que si, au niveau des yeux, de la vue, vous êtes proche des limites, vous n'aurez pas besoin de fournir ce rapport ophtalmologique. Et puis, la recommandation consistant à corriger autant que possible les amyotropies sera supprimée également. Donc, au niveau des contrôles de vue, la législation s'allège, si on veut bien.
Donc, on peut être aveugle et conduire maintenant.
Moi, c'est ce que je fais.
Il suffit de mettre la canne à la bonne place.
Exactement.
Ou le chien.
Ou le chien, ça va aussi.
Bon, ça c'est fait.
Et puis, autre changement en lien avec la voiture, on ne fera plus de différence entre voiture automatique ou manuelle.
Alors en fait, à compter du 1er février, quiconque aura l'examen pratique avec un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique sera également autorisé à conduire des véhicules équipés d'une boîte de vitesse manuelle. Donc il n'y a plus aucune restriction qui sera inscrite dans le permis de conduire. Et les titulaires de permis de conduire où figure cette restriction maintenant pourront demander à ce qu'elle en soit retirée auprès du service des automobiles compétents qui accédera à leur requête s'il n'y a aucune raison médicale qui s'y oppose, évidemment. Donc peu importe qu'on ait appris à conduire sur une voiture automatique ou à l'ancienne, on va dire, le permis sera la même chose, le même pour les deux modèles de véhicules.
Une autre nouveauté législative, Sandrine, en matière de poursuite pour dette et faillite, c'est quoi les modifications dans ce domaine-là ?
Alors dans ce domaine-là, les principales modifications, c'est qu'une personne qui fait l'objet d'une poursuite injustifiée pourra veiller à ce que celle-ci ne soit pas portée à la connaissance de tiers. Donc que des tiers ne soient pas au courant qu'il y a eu une inscription à son encontre. Le traitement d'une demande à cet effet lui coûtera 40 francs. Évidemment, il y a toujours un émolument. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de cette révision de l'ordonnance sur les émoluments en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite au 1er janvier. Donc ça, c'est voilà, contre un émolument, vous pouvez demander que ce soit plus porté à la connaissance de tiers. Et puis, le débiteur peut demander à l'Office des poursuites que la poursuite injustifiée dont il fait l'objet ne soit pas portée à la connaissance des tiers, pour autant que le créancier n'ait pris aucune disposition pour faire annuler l'opposition dans un délai de 3 mois. Donc il y a toujours cette procédure d'opposition dans les cas de poursuite. Et puis s'il n'y a rien qui a été fait pour annuler cette opposition, dans ce cas-là, on peut demander à ce que les tiers ne soient pas au courant. L'ordonnance révisée fixe désormais un émolument de 40 francs pour les traitements de ce type de demande. Et puis le demandeur doit acquitter l'émolument au moment où il dépose sa demande. Donc on fait la demande, on s'acquitte de cet émolument, et puis comme ça votre demande est satisfaite. Et puis en fait ça c'est simplement pour une harmonisation entre les différents offices de poursuite.
Sandrine, on passe du coq à l'âne, si j'ose dire. Il y a également du nouveau pour les enfants qui sont nés de dons de sperme.
Oui, effectivement, il y a une autre nouveauté qui concerne les enfants nés de dons de sperme. Donc à partir du 1er janvier 2019, les personnes issues d'un don de sperme qui sont nées après le 1er janvier 2001, donc là c'est vraiment une date qui fait référence, bénéficieront d'un droit d'accès simplifié aux données relatives aux donneurs de sperme. Donc jusqu'à présent, c'est une procédure qui est assez lourde et assez compliquée. La législation s'est simplifiée à ce niveau-là. Et puis, ces personnes pourront désormais recevoir les données qui concernent leur ascendance simplement par courrier postal à leur domicile ou bien par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé. Donc, selon le droit en vigueur jusque-là, les personnes autorisées, dès qu'elles ont 18 ans, elles peuvent obtenir de l'Office fédéral de l'état civil les informations qui concernent l'identité du donneur donneur et également son aspect physique. Avant cette modification, l'Office remettait le rapport écrit concernant le donneur en personne au demandeur dans ses bureaux à Berne. Donc il fallait aller physiquement se présenter pour faire la demande et recevoir ce rapport écrit. Et puis, donc à partir de cette année, la procédure elle est simplifiée et puis on peut recevoir maintenant simplement par courrier à son domicile.
Donc ça veut dire que c'est forcément à l'enfant d'exécuter ces démarches ?
Non, pas forcément. Donc, si le demandeur le souhaite, donc l'enfant, la communication des données, elle peut aussi être faite par un professionnel de la santé. Donc, par exemple, le médecin traitant. Et puis, ça peut être le médecin traitant, ou bien ça peut être aussi un organisme qui est spécialisé en psychologie, parce que c'est vrai que c'est des procédures qui nécessitent souvent l'intervention aussi d'un psychologue, par exemple. Le Conseil fédéral tient aussi compte dans ses modifications des préoccupations qui ont été formulées par certains participants à la consultation. Et puis, ces derniers estimaient qu'un accompagnement socio-psychologique était important, pouvait même se révéler nécessaire, même quand la communication des informations se fait par écrit. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne va plus physiquement accompagner, par exemple, de quelqu'un pour nous aider en cas de coup dur émotionnellement, qu'on n'a plus besoin d'avoir cette aide psychologique, ou bien ça peut être un ami, ça peut être vraiment une personne qui nous aide à passer ce cap, si j'ose dire.
Jamais 203. Format A3.
De nouvelles dispositions législatives, des lois révisées ont fait le tour des nouveautés juridiques qui entrent en vigueur en 2019.
Et c'est notre juriste Sandrine Lachat qui s'est plongée pour nous dans les textes de loi.
Oui, plongée, c'est le moins que l'on puisse dire. Sandrine, on a vu les changements liés à la voiture, aux poursuites, aux enfants nés de dons de sperme. Il y a aussi un grand chapitre qui concerne la loi sur les jeux d'argent.
Alors en effet, lors de sa séance du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d'argent et ses ordonnances d'exécution au 1er janvier 2019.
C'est là le jour où ils ont bossé, alors le 7 novembre 2018.
Il faut bien qu'ils bossent une fois de temps en temps.
Bon, d'accord, c'était là.
La loi autorise l'exploitation des jeux en ligne et renforce la protection contre la dépendance aux jeux. Donc là, il y a un fort accent qui est mis sur la prévention de la dépendance aux jeux. Les sociétés de loterie devront, comme le font déjà les maisons de jeux maintenant, exclure les personnes dépendantes. Donc il y a des mesures concrètes qui concernent notamment les jeux en ligne qui sont déployées pour prévenir cette dépendance aux jeux. Par ailleurs, les ordonnances fixent des montants maximaux pour les tournois de poker qui sont organisés en dehors des maisons de jeux. Donc, par exemple, la mise de départ par joueur a été fixée à 200 francs et la somme maximale des mises à 20 000 francs. Et il y a aussi ces montants pour les tombolas, là c'est 50 000 francs. Lorsqu'un jeu réunit les critères d'une tombola, mais que la somme de mise dépasse les 50 000 francs, il peut être qualifié en petite loterie et avoir lieu à ce titre sous réserve d'une autorisation cantonale. Donc là, il faudra demander une autorisation cantonale pour pouvoir organiser une petite loterie.
Et puis, Sandrine, on se souvient que pendant la campagne sur la votation sur cette loi, hein, sur les jeux d'argent, il y a eu énormément de discussions autour des sites internet sur lesquels on peut jouer. Alors finalement, il se passe quoi avec ces sites ?
Alors les dispositions sur le blocage des sites internet proposant des jeux non autorisés n'entreront en vigueur que 6 mois plus tard. Donc là, il y a un petit décalage avec l'entrée en vigueur des premières dispositions. Et puis, à cette date, les concessions incluant les jeux de casino en ligne autorisés auront été octroyées. Donc ce sera tout sur autorisation, concession. Le tribunal fédéral avait rejeté le recours qui concernait la votation sur la loi. Donc, il n'y a maintenant plus rien qui s'oppose à une entrée en vigueur cette année.
Alors, il y a aussi des nouveautés législatives sur la protection de l'adulte et de l'enfant.
Alors, effectivement, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, tous les professionnels en contact régulier avec les enfants doivent désormais signaler tout soupçon de maltraitance aux autorités. Donc auparavant, c'était seulement les personnes qui ont une fonction officielle, par exemple les enseignants ou les travailleurs sociaux, qui étaient tenus de signaler aux autorités les cas présumés d'abus. Concernant les professionnels de la santé et les avocats, ils pourront dorénavant s'adresser aux services de protection malgré le secret professionnel, pour autant que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, évidemment. Donc jusqu'alors, ils pouvaient le faire que s'il y avait un acte punissable qui avait été commis. Désormais, tous ceux qui sont en contact régulier avec les mineurs de par leur profession, ou les employés de crèche par exemple, ou les moniteurs sportifs, l'entraîneur de foot, hein, par exemple, auront l'obligation légale de signaler ces cas dès le moment où ils ont connaissance d'indices concrets que l'intégrité psychique, physique ou sexuelle d'un enfant est en danger et puis qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes remédier à la situation. Donc ça, c'est un accent qui est très, très important, qui est mis sur la protection de l'enfant dans le cas de maltraitance.
Et puis, il y a également, Sandrine Lachat, quelques changements en matière de curatelle.
Lors de sa session d'automne 2017, le Parlement avait décidé qu'à l'avenir, il n'y a plus personne qui serait contraint d'assumer une charge de curateur contre son gré. Donc ça, c'était dans plusieurs cantons. On pouvait vous imposer d'assumer la curatelle d'une personne, même si vous n'étiez pas forcément d'accord, vous n'aviez pas forcément le temps. On pouvait vous l'imposer. Donc c'est vrai que dans tous les cantons, progressivement, ils ont renoncé à faire usage de cette possibilité. C'est vrai qu'on le sait bien qu'une personne qui est contrainte, elle va peut-être moins s'impliquer qu'une personne qui est volontaire. Et puis l'octroi d'un mandat de curatelle nécessitera dorénavant le consentement de la personne. Donc on vous demandera d'abord si vous êtes d'accord d'assumer la curatelle pour monsieur ou madame XY.
Et puis Sandrine, rapidement, on a également entendu parler de réforme de la TVA et notamment des changements quand on fait des achats sur Internet à l'étranger.
Exactement. Le Conseil fédéral veut soumettre les achats par correspondance qui sont effectués sur des sites Internet à l'étranger à la TVA dès cette année. Donc, dès 2019, il y a toutes les parties de la révision partielle de la loi sur la TVA qui seront mises en œuvre. Les achats par correspondance qui sont effectués sur des sites étrangers coûteront plus cher dès le mois de janvier. Et le Conseil fédéral veut les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée pour en fait mettre un terme aux désavantages concurrentiels qui sont subis par les entreprises domiciliées en Suisse. Donc c'est vraiment en matière de concurrence. Les commerçants étrangers qui réalisent un chiffre d'affaires qui est supérieur à 100 000 francs par année avec des petits envois devront maintenant facturer la TVA helvétique à leurs clients suisses. Et en contrepartie, la douane ne prélèvera plus l'impôt sur les importations. Et puis si par la suite l'entreprise concernée n'atteint plus la limite du chiffre d'affaires de 100 000 francs, mais ne le dit pas à l'administration fédérale des contributions, celle-ci elle partira du principe qu'elle souhaite s'assujettir de manière volontaire à la TVA. Donc c'est vraiment à l'entreprise d'informer l'administration fédérale des contributions.
Voilà pour ces quelques nouveautés en matière législative en 2019. Sandrine, on vous remercie beaucoup d'avoir plongé dans les textes de loi pour nous. Puis on se réjouit de vous retrouver sur un prochain sujet très prochainement.